Matin de la puissance de la réconciliation. Je vous donne un exemple. Lorsque j'avais 18 ans, je suis arrivé en France avec mon père qui était invité comme prédicateur prêcher ici dans les églises. Et puis ensuite, mon père, ben, il est retourné. On était 4 garçons et 4 filles. Et on avait une mère qui priait pour nous. Quelquefois, j'entendais sa prière la nuit, elle s'est réveillée, priait pour nous, priait pour nous, priait pour nous. Et moi, j'ai toujours refusé tout ça. J'ai dit, Dieu ne fera jamais partie de ma vie. Ça, c'était la première chose, parce que c'était le communisme, le régime autoritaire. Mon père était en prison pour l'évangile. Toutes ces choses-là, moi, j'ai dit, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. Voilà. Quand j'ai grandissais, donc j'étais ado, je refusais tout ça. Puis ensuite, voilà, je viens en France, 18 ans, deux mondes différents. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de différence. Vous allez là-bas, dans le pays de l'Est, vous avez le Castorama, vous avez le Roi Merlin, vous avez Auchan. Voilà, le niveau de vie est peut-être encore un peu plus bas, mais voilà, la même chose que l'Espagne, le Portugal, voilà, tous ces pays, voilà. Sont développés, donc c'est différent. Mais pourquoi je vous raconte ça? Mais ma mère, elle n'a jamais accepté que je reste en France. Jamais, jamais, jamais. Voilà, elle nous a fait beaucoup de misère. Voilà, on allait avec les enfants là-bas pour rendre visite à nos parents, à la famille, et puis à chaque fois des pics, voilà, je sentais qu'elle. Voilà, elle n'a jamais, 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 jamais accepté le fait que je suis. Rester en France. Et puis voilà, c'était une histoire il y a 10 ans. Elle était hospitalisée. On m'a téléphoné. On dit vraiment ça va, ça va, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ben, j'ai dit écoutez, si ça va pas, dites-moi, je prends l'avion, j'arrive. J'aimerais quand même voir ma mère vivante. Et il y a un certain moment, on m'a téléphoné, on m'a dit il faut que tu viennes, elle va mourir, elle a encore pour quelques jours. D'accord, j'arrive là-bas. Et puis, effectivement, je vois ma mère. Elle était mourante. Elle était mourante, voilà, mais elle avait encore sa tête, résonnait encore. Elle m'a parlé, puis on a parlé un petit peu. Et à un moment, elle m'a dit, écoute, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit pendant toutes ces années. Voilà. J'ai pleuré avec elle et puis ensuite, j'étais heureux parce qu'elle s'est libérée. Moi, j'avais vraiment pas de problème vis-à-vis de ma mère. Je l'aimais comme avant. C'est elle qui a prié, c'est elle qui nous a enfantés. Une mère, ça sera toujours une mère. On a une mère dans la vie, pas deux. Vous comprenez? Donc, c'était toujours ma mère. Le respect envers ma mère. Voilà, ils ont connu tellement de choses. La persécution, etc. Elle criait, elle priait pour nous, pour que nous soyons au moins des gens. Des enfants corrects. Et voilà, on a pleuré tous les deux. Et puis je lui ai dit, au revoir, écoute, on se verra au ciel. Mais tu sais, tu as la foi. Comme ça, il faut savoir consoler les gens qui sont en train de mourir. Ah, elle me dit, tu sais, quelquefois, ma foi est un peu faible, mais je voulais vraiment faire ce que j'ai fait avec toi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ah ben, j'ai lui dit, écoute, on se verra dans l'éternité. Au revoir. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, elle est sortie de l'hôpital. Elle a vécu encore 10 ans. 6 ans, parce que là, elle est décédée à 4 ans. On était à l'île de la Réunion. On n'a pas pu assister à l'enterrement. La puissance de pardon, vous voyez? De la réconciliation. On s'est réconcilié. On s'est réconcilié. C'est libéré. Il y a quelque chose qui s'est passé, elle est sortie. Eh bien, juste une introduction comme ça. Je vais prendre un texte de la parole de Dieu. Donc, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et le chapitre 5, et le verset 17. C'est bon? Ainsi, celui qui est uni en Christ est une nouvelle quoi? Créature. Ensuite, ce qui est ancien a disparu. Oulala, c'est facile avec Dieu, hein? Voici ce qui est nouveau et déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés. Donc n'oubliez pas l'expression réconcilier. Hein, je vous ai donné l'exemple de mon témoignage. Donc, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. C'était ça, hein? Je regarde parce que c'est pas la traduction. D'accord. Voilà. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leur faute. Et il a fait de nous quoi? Les dépositaires du message de la réconciliation. Et puis dans une autre traduction, nous dit que il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dépositaire, d'accord? Et dans une autre traduction, voilà. Donc, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de... nous faisons... on est où? Oui. Nous, je suis un peu perdu parce que ce n'est pas la même traduction. Nous faisons donc fonction, voilà, le verset 20. Nous faisons donc fonction de quoi? On parle d'ambassadeur dans l'Église? Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Très bien, merci. Alors, la première chose dans le premier verset, on nous parle de Christ et surtout le salut, d'accord? Nous sommes devenus une nouvelle création. C'est-à-dire que sans Christ, sans avoir une espérance, sans être sûr de la vie éternelle, ben voilà, nous vivons. Bien ou pas bien, mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quel est notre avenir. C'est vrai, hein? Et il y a des moments où il y a un vide, où on se pose la question, mais les années passent. D'accord, l'école, les études, le travail, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, et puis je commence à réagir différemment. Tant que j'ai 20 ans, tout va bien. Je suis jeune. D'accord? Et puis ensuite, 25 ans, ça monte. Je deviens adulte, un jeune adulte. Et 30 ans, encore mieux, encore plus. Et puis 40 ans, il faut pas que... je peux pas faire des bêtises. Là ça devient sérieux. Et puis quand on a passé 50 ans, oh là là, bientôt c'est 60 ans, vous comprenez? Et quand on a passé 60 ans, peut-être 2-3 ici parmi nous, je suis parti, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre 60 ans. Alors, sans penser à Dieu, moi, personnellement, j'ai vécu mal mes 60 ans. Ça vous dérange? Tu penses que tu ajouteras 60 ans, Antonia? Il n'y a pas longtemps, j'étais jeune comme toi. Tu crois? Oui. On était bébés, les enfants, ados, le jeune, et puis les années passent. Et puis, souvent, voilà, il y a un vide devant nous. Je me souviens de cet homme qui m'a dit, moi, je suis blindé, financièrement blindé. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'argent. J'ai une villa, j'ai des voitures, j'ai un appartement, j'ai de l'argent en Amérique. Voilà, mais seulement, il avait déjà 67 ans. Je suis blindé. Je peux voyager. J'ai tout ce qu'il faut pour bien vivre. Mais il a commencé quand même à réfléchir parce qu'il dit, j'ai 67 ans. Il me parle de ça. Et je lui ai dit, t'as ça. Tu as les choses là-bas et Elle a compris, hein, là-bas. Est-ce que tu as quelque chose là-bas? Elle dit, c'est pour ça que je te parle. Pour ça que je te parle. Ça devient pesant. C'est difficile. J'ai tout, mais 67 ans, je le sais, dans 3 ans, j'aurai 70 ans. Et même si je vis encore 10 ans ou 15 ans, ça va passer tellement vite. Et voilà, il y a quelque chose qui m'échappe, il y a un vide dans ma vie. C'est ça, hein? Alors donc, regardez ce qui se passe. Lorsque Christ, enfin Jésus-Christ, est venu dans ta vie, dans ma vie, tout a changé. Amen. Tout a changé. Je vois les choses différemment. J'accepte Jésus. Il est la vie. Et je commence à voir les choses différemment. J'ai 20 ans, c'est bien, j'ai la foi, c'est bon, je suis protégé. J'ai 40 ans, c'est bon, il n'y a aucun problème, Dieu est là, j'ai l'espoir. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans, il n'y a rien qui change. Et puis même plus après, et on sait que le fait que nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons l'assurance, la certitude pour la vie éternelle. Franck, tu es d'accord avec moi? Tu crois que j'étais jeune comme toi? Alors vous voyez, et c'est pourquoi Paul dit, s'adresse à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, voilà, nous sommes devenus une nouvelle créature. On voit les choses différemment. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ma mère qui priait, vous avez compris. Ça m'a touché. Peut-être quelqu'un d'autre, si vous parlez avec Sonia, elle a entendu l'évangile d'une autre façon, et beaucoup plus tard. C'est ça, hein? Ici, il n'y a pas longtemps. Hein? Il n'y a pas longtemps. Par Internet, je pense même, tu vois. Et puis, ça travaillait. Et Sonia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à chercher. Il y avait un vide devant toi. C'est ça. Hein? Quelle est la raison de ma vie? Et tout à coup, Sonia arrive là, on était justement au bon moment, hein? Elle pousse la porte là, on était dans l'entrée, et dit, voilà, moi je viens j'aimerais venir ici parce que j'ai compris que Dieu existe, Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché, et puis tu es devenue quoi? Une nouvelle créature, même ton sourire a changé, parce que quand tu es venu, Sonia, tu étais figé comme ça. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Voilà. Oui, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, Sonia. Oh! Mais c'est ça, hein? on est libre. Tu vois, moi, peu importe, on me coupe la tête tout là, c'est pas grave. C'est l'éternité devant nous. Amen. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Donc voilà, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est dans ce sens-là. On vieillit toujours. J'ai perdu mes cheveux, je suis devenu gris, j'ai vieilli. D'accord. Ça, c'est la tente de la tente. Mais dans cette tente, il y a la vie. La vie. Et cette vie est éternelle. Avec diable ou avec Dieu, mais elle est éternelle. Alors, si cette vie est éternelle, avec diable, c'est quoi? C'est les tourments éternels, ça ne m'intéresse pas. J'ai accepté Jésus pour que je sois pour l'éternité, dans la joie. Voilà, et puis partager une vie extraordinaire dans la présence de Dieu. Amen, c'est ça. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes devenus une nouvelle créature. Grâce à Dieu qui nous a donc réconciliés avec lui. Donc, essayez de retenir ça. Dieu lui-même, il est venu vers toi d'une façon ou d'une autre. Pardon. Et il nous a réconciliés lui-même, d'accord, avec lui. C'est lui qui a fait le démarche. Viens. On brise le L'obstacle brise la mort qui existe entre nous. Tu deviens mon ami, tu deviens mon enfant. Donc, c'est lui qui nous a réconciliés, donc la réconciliation, avec lui-même au Christ, parce que nous avons accepté Jésus. Et regardez ce qui se passe après. Le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu, d'accord, lui-même nous a réconciliés avec lui, il nous a donné quoi? Le ministère ou le service de la réconciliation. Il nous a donné. Ça devient intéressant, hein? C'est bien, on est sauvé, c'est formidable, je suis devenu son enfant. Mais finalement, Dieu me demande plus que ça. Amen? Plus que ça. Voilà, je suis sauvé, il faut que je libère les saluts aux autres. Amen? Voilà, donc nous a donné le ministère de la réconciliation et en même temps la parole de la réconciliation. Alors j'ai les expressions d'une autre traduction, ça veut dire la même chose. Donc, il nous a donné la parole de la réconciliation. Ou autrement dit, le message du salut. Donc la parole de réconciliation, c'est-à-dire que le fait qu'il nous a réconciliés avec lui, il nous donne le pouvoir, le droit de pouvoir réconcilier nous nous a donné le pouvoir de pouvoir réconcilier maintenant les autres avec Dieu. Amen. Et pour cette réconciliation, il nous a donné quoi? La parole de la réconciliation. La puissance, quand je parle de ça, c'est tellement... Chaque fois, je suis touché parce que... Qui suis-je, moi? que le fait que Dieu m'a donné une parole puissante en moi, en utilisant cette parole, je peux donner la possibilité à quelqu'un d'autre de se réconcilier avec Dieu et devenir son enfant. C'est fort, non? Très bien. Donc, il nous a donné le message de salut. La puissance de l'évangile, tout simplement, la parole de Dieu. Alors, dans ces cas-là, nous avons un grand privilège. Quel privilège? Le privilège d'être ambassadeur. Vous avez vu? Nous faisons donc fonction, les fonctions d'ambassadeur de Christ. Nous faisons fonction, je répète, d'ambassadeur de Christ. Autrement dit, Dieu nous a chargés de gérer les affaires de Dieu sur cette terre. Allô? Je répète. Dieu lui-même a fait de nous des ambassadeurs, mais des ambassadeurs de Christ, nous représentant Christ, le royaume de Dieu, et il nous a chargés de gérer ses affaires, les affaires de Dieu, les affaires du ciel, sur cette terre. C'est fort, non? Alors, quand on parle de l'ambassade dans la vie politique, elle est protégée, hein, l'ambassade est protégée, il y a vraiment des lois internationales, etc. Vous ne pouvez pas toucher l'ambassadeur, vous ne pouvez pas toucher l'ambassade. L'ambassade est quelque chose de très important. Donc, l'ambassade représente un pays, dans un autre, il parle au nom de son pays. Imaginez-vous l'ambassade de l'Amérique, des États-Unis à Paris. C'est l'ambassade, l'ambassadeur et l'ambassade parlent, représentent son pays, sa puissance, mais en même temps, il a le langage du pays, d'accord? Alors, maintenant, dans les domaines spirituels, qui est notre roi? C'est Jésus. On est bien d'accord? C'est Jésus Christ qui a payé le prix pour nous. Il est venu sur cette terre pour te sauver, pour nous sauver. D'accord? Je répète, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous faisons partie donc du royaume de Dieu qui commence là, petitement. Quelquefois, on nous sous-estime. D'accord? Dans certains pays, il y a même la persécution. Mais attention, on a affaire avec la vie ou la mort, mais aux yeux de Dieu, nous avons une importance, nous avons une valeur éternelle. Donc, l'église locale est une ambassade pour Christ. Nous sommes l'église locale. Il y a des églises locales partout dans le monde entier. Amen, on est d'accord? Donc, au travers de tous les siècles, il y a eu des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ comme nous, sont devenus une nouvelle créature. Et voilà, l'église locale a accepté que l'église locale, donc nous sommes une ambassade. Franck, est-ce que tu crois que tu fais partie d'une ambassade de Christ? C'est fort, non? C'est pour ça que tu as le sourire. Bon, je ne sais pas, moi j'ai... Ah, je suis tellement content, je suis tellement heureux. Mais qui suis-je, moi, Seigneur, que tu m'as appelé pour que je puisse faire partie de l'ambassade de Christ? Amen. Tu représentes l'éternité, tu représentes le royaume de Christ. Tu parles au nom d'un roi qui est éternel, pas juste Sarkozy qui a pu durer pendant 5 ans. On a beaucoup de respect envers ces politiques. Hein. Je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Ce que la Bible nous dit, priez pour les autorités. Amen. Alors, ici, on critique tellement, personne n'est content, ou presque. Hein. Vous allez dans un pays où les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger en se réveillant. Ah ben, c'est pas... Alors, moi, j'ai dit, merci Seigneur, ce que nous avons, même si rien n'est parfait. Mais j'ai beaucoup de respect envers ces gens. Et il faut prier pour... Mais tout ça, c'est quoi? C'est passager. Amen. Ça passe. C'est la démocratie. Mais là, on parle de la royauté. Jésus-Christ est le roi. Nous faisons partie du royaume de Christ, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. C'est lui qui règne. Et puis un jour, voilà, c'est un sujet très très important, nous vivrons dans l'éternité ensemble, et nous allons voir Dieu tout-puissant, c'est lui qui va régner, ça sera visible, etc. Aujourd'hui, nous sommes sur cette terre. Donc, je répète, nous, l'église locale est une ambassade pour Christ, protégée par les statuts internationaux ou par les statuts de Dieu. Pas les statuts, il y a une convention, les statuts internationaux et tout ça pour une ambassade, il représente un pays, mais nous avons un statut de Dieu. Parce que l'ennemi, le diable, il se déchaîne, il nous empêche, nous avons nos combats, nous avons nos problèmes, et l'ennemi veut souvent amplifier une petite chose, une petite erreur, une petite faute. Voilà, il fait tout pour nous déstabiliser, pour nous, de décrocher de Dieu, pour que nous puissions perdre notre foi, le doute, etc. Donc ça, c'est le travail du diable. Mais nous sommes protégés par les statuts de Dieu. Vous avez entendu, je vous ai parlé, merci. Parce que le peuple de Dieu, voilà, mes amis pasteurs, vous avez prié pour nous. Regardez, on peut pas tout raconter. Il y avait des moments où nous avons prié, j'ai prié pour des gens, les gens ont été bénis, et d'autres ont vu, et puis couraient vers nous, et ils m'ont dit, « Oh, pasteur, priez pour moi. » Quelquefois, je donnais beaucoup d'argent. Je ne dis pas pour vous dire que j'ai donné, c'est pas ça. Mais je le savais, et quand j'ai vu la misère, moi j'avais un peu d'argent, 10 euros, je sortais facilement, 20 euros, parce que là-bas c'est beaucoup, hein, 20 euros c'est... Il y a des gens qui travaillent pour 20 euros un mois, hein, d'accord? Voilà, alors je prenais un billet et puis j'ai dit, bon, je donne 20 euros, mais en même temps, on va prier pour ça, pour que Dieu te bénisse. Nous avons prié. Je pense à un jeune homme qui était béni. On a prié pour lui. Voilà. On lui a donné un billet. Et puis, 2-3 jours après, on nous dit, j'ai trouvé un travail. C'était formidable. Hein? Quand je vais retourner la prochaine fois, ce n'est pas moi qui vais lui donner 10 euros, c'est peut-être lui qui va me... Ouais, des choses comme ça. Et là, les autres ont vu. Alors, ils couraient vers moi à la prochaine fois. Et chaque fois, je disais, Seigneur, mais il y a une pression, une bonne pression sur moi. Mais qui suis-je, moi? Ce n'est pas moi qui donne. Voilà, mais qui suis-je, moi, qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Et on va plus loin. Il y a quelqu'un d'autre qui court. Il y a une femme qui s'agenouille comme ça par terre. Voilà, là-bas, il n'y a pas de moquette. Par terre, comme ça, sous la terre. Hein. Elle dit, non, lève-toi. Moi, je suis on est au même niveau. Hein. Tu sais, on est cousins. Hein. On est cousins. T'inquiète pas. Hein. Tu ne vas pas t'abaisser à côté de moi. Tu te lèves. Voilà, même tu t'assois, comme ça, c'est plus confortable pour toi. Et je vais prier pour toi. Et la dame, elle a été priée. Son mari travaillait dans quelque part où il gagnait beaucoup d'argent, et puis en même temps, il bénissait l'église. Il y a juste quelques personnes qui gagnent bien leur vie là-bas, c'est comme ça. Donc, il priait pour que mon mari soit béni, et nous allons pouvoir bénir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça là-bas. Hein. Et puis ensuite, il y a d'autres qui venaient, d'autres, et puis à la fin, il y a un pasteur qui vient. « Oh, Antoine, est-ce que tu peux aussi prier pour moi ?»« Ah ben, je dis, tu veux que je prie pour ça ? Pourquoi ? Aussi pour le... chose, ouais, pour l'église, mais aussi pour les finances et tout ça. Il sort habillé. Vas-y, on va prier pour ça. Alors, je lui dis, bon, tu es pasteur, hein, tout va bien pour toi, ça va. Je ne vais pas prier quand même pour un pasteur. Je lui dis, non. J'ai provoqué un peu. Je dis, non, prie pour moi, j'ai besoin vraiment de Dieu. J'ai besoin pour que Dieu puisse nous bénir l'église et financièrement, pour que nous puissions finir nos bâtiments et construire un bâtiment pour 1000 places. Au dur, comme ils disent là-bas, en dur, hein, en béton, enfin, par paille, tout ça. Alors moi, j'ai dit, je vais investir là, parce que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des hommes et des femmes qui vont donner leur vie à Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui vont toucher dans cette salle. Alors, je vais juste donner une pierre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis ensuite, il y a d'autres personnes qui courent après nous, comme ça, pour dire, oh, est-ce que tu peux prier pour nous? Est-ce que tu peux nous toucher? C'était remarquable. Les choses qui se passaient comme ça, formidable. Bah, parce que dans la cabane, il y avait les gens qui priaient pour que, pendant cette mission, il y a des choses qui se passent. Voilà, donc nous faisons partie d'une ambassade, l'église locale, d'une ambassade pour Christ. Nous sommes protégés, hein, je vous ai déjà dit, nous avons le pouvoir de délivrer, et là je vais terminer, le temps passe vite, nous avons le pouvoir. Nous avons le droit, nous avons l'autorité à délivrer les visas et les passeports pour beaucoup de personnes pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Allô? C'est symbolique ce que je lui dis. Dieu ne va pas demander le visa, mais la parole de Dieu. Tu parles à quelqu'un. Tu communiques la parole de Dieu à quelqu'un. D'accord? Vous ouvrez les cœurs. La parole est une puissance. Ça représente comme si c'était un visa dans le domaine de... Voilà. Où vous avez un visa et nous, on avait besoin de visa. Eh bien, il fallait payer. D'accord? Et là, nous prêchons l'évangile. Nous communiquons la parole de Dieu. Les gens reçoivent Jésus-Christ. C'est comme si ils recevaient le visa et le passeport pour entrer où? Dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es content que tu es ambassadeur, que tu fais partie d'une ambassade pour Christ? C'est important, hein? C'est fort. Hein? Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. Alléluia. On va se lever ensemble. Voilà, puis tout de suite, je vais donner la parole à Thierry parce que c'est aussi important. Seigneur, nous te prions. Pour que tu puisses nous toucher, nous visiter, consolider ta parole dans nos vies. Seigneur, nous sommes là, ce n'est pas parce qu'on veut juste être là et faire un peu de bruit, voilà, pour dire j'ai fait un acte de présence. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous t'aimons. Amen. C'est parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es celui qui nous a donné, accordé cette réconciliation avec toi, puis nous a donné une parole de réconciliation, Seigneur Jésus. Et nous avons le droit de, aujourd'hui, de conduire les hommes et les femmes vers toi, Seigneur, vers toi, pour qu'ils puissent vivre éternité, éternité dans ta présence, avec toi, Seigneur, notre Dieu. C'est ce qui nous intéresse, Seigneur, c'est ce qui est plus important. Merci, Jésus. Y a-t-il peut-être quelqu'un parmi nous qui n'a jamais donné